Passion lire, la chronique littéraire de Gilles Labouroir. Bonjour, voici quelques minutes de littérature que je partage avec vous. Quand je pense à tous les livres qu'il me reste à lire, j'ai la certitude d'être encore heureux, disait Jules Renard. Aujourd'hui, « Mort dans l'après-midi » de l'auteur américain Ernest Hemingway. Dans les années 1920, Hemingway est devenu un aficionado de l'art de la tauromachie après avoir assisté aux fêtes de la Saint-Fermine de Pampelune qui sert de cadre au roman « Le soleil se lève aussi ». Dans « Mort dans l'après-midi », publié en 1932, il discute de la métaphysique de la tauromachie, l'associant à un rituel presque à l'égal d'une cérémonie religieuse, point de départ pour l'écrivain d'une interrogation sur l'essence de la vie et de la mort. Ernest Hemingway est né le 21 juillet 1899 et a grandi à Oak Park, une ville située en banlieue ouest de Chicago, dans l'Illinois. Il est le fils d'un médecin et d'une musicienne. Il est le deuxième enfant d'une fratrie qui en comptera six. Il travaille pendant quelques mois en tant que journaliste reporter au Kansas City, avant de devenir ambulancier sur le front italien pendant la Première Guerre mondiale. Cette période servira de fondement à son roman « L'adieu aux armes ». Grièvement blessé, il passe plus de 3 mois à l'hôpital et s'engage à sa sortie dans l'armée italienne. En 1922, Hemingway épouse Adley Richardson, la première de ses 4 épouses. Le couple s'installe à Paris, où Hemingway travaille comme correspondant étranger. Au cours de cette période, il fréquente des écrivains tels que Gertrude Stein, Ezra Pound, James Joyce. Il se lie également avec des artistes modernistes de la communauté expatriée connus sous le nom de Génération perdue et dont certains exerceront sur lui une influence significative, comme Scott Fitzgerald, John Dos Passos, John Steinbeck, William Faulkner. En 1926, il écrit son premier roman, Le soleil se lève aussi. Après avoir divorcé de Adley Richardson en 1927, Hemingway épouse Pauline Pfeiffer. Il se rend en Espagne pour couvrir la guerre civile espagnole, sujet principal de son roman « Pour qui sonne le glas ». À son retour, il divorce, mais cohabite avec son ex-femme jusqu'en 1939. Martha Gellhorn devient sa 3e épouse en 1940. Elle est reporter de guerre, elle est finalement la seule femme à poser le pied sur les plages normandes le 6 juin 1944 avec les troupes américaines. De retour à Londres, elle lui annonce qu'elle le quitte. Hemingway épouse alors en 1945 Mary Welsh. En 1948, Hemingway et son épouse décident de se rendre sur la Côte d'Azur. Ils en profitent pour se rendre à Venise. Invité à une chasse aux canards, Hemingway fait la connaissance de la comtesse Adriana Ivančić, dont il tombe amoureux et qui le rejoindra d'ailleurs à Cuba. Ils se reverront en Italie en 1954. Alors qu'il est fatigué, malade et dépressif, cette aventure lui redonne l'inspiration perdue et il écrit « Au-delà du fleuve et sous les arbres » comme un reflet de leur idylle, animant ses propres souvenirs de la Première Guerre mondiale. Alors qu'il pense avoir écrit une œuvre remarquable, la critique américaine est féroce. Peu de temps après la publication du roman « Le vieil homme et la mer » en 1952, qui lui vaut le prix Pulitzer en 1953, Hemingway participe à un safari en Afrique, où il manque d'être tué dans un accident d'avion qui le laisse perclus de douleur et en mauvaise santé pour le reste de sa vie. Il obtient le prix Nobel de littérature en 1954. En 1959, il quitte Cuba pour Ketchum, dans l'Idaho. Le 2 juillet 1961, il se suicide d'un double coup de son fusil préféré. Il est rapporté qu'une fois, Ernest Hemingway avait blâmé son père, Clarence, après le suicide de celui-ci, considérant cela comme un acte de lâcheté. les nombreux suicides constatés dans la famille Hemingway. Son père, son frère, sa sœur et sa petite-fille, Margot Hemingway, pourraient être en relation par le biais d'un fardeau génétique. Mort dans l'après-midi. Il est convenu qu'un matador ne court jamais, mais Gallio était capable de courir si le taureau le regardait d'un air particulièrement entendu. C'est lui qui a inventé de refuser de tuer le taureau si le taureau le regardait d'une certaine façon. Et lorsqu'on le mettait sous les verrous pour cela, il disait que cela valait mieux. Nous autres artistes, nous avons tous nos mauvais jours. Ils me pardonneront la prochaine fois que je serai dans un bon jour. Il donna plus de représentations d'adieu que la Patti, et maintenant qu'il va sur la cinquantaine, il en donne encore. Ses premiers adieux officiels et définitifs, il les fit à Séville. Il était grandement ému, et quand le moment vint de dédier le dernier taureau qu'il devait tuer dans sa vie de torero, il décida de le dédier à son vieil ami, le seigneur Fulano. Il enleva son chapeau, et, avec sa tête brune et chauve qui brillait, il dit: « À toi, Fulano, ami de mon enfance, protecteur de mes débuts, prince des aficionados, je dédie ce dernier taureau de ma vie de torero. » Mais comme il achevait ces mots, il vit le visage d'un autre vieil ami, un compositeur, et se dirigeant le long de la barrière jusqu'à être en face de lui, il leva vers lui des yeux humides et dit: « À toi, ô excellent ami, toi qui es une des gloires du ciel de la musique espagnole, je te dédie ce dernier taureau que je tuerai de ma vie de torero. » Mais comme il s'en allait, il vit Algabeno, un des meilleurs tueurs qui fussent jamais venus d'Andalousie, assis non loin le long de la barrera, et, s'arrêtant pour lui faire face, il dit: « À toi, vieux camarade, dont le cœur suivait toujours l'épée, à toi, le meilleur tueur de taureau que j'ai jamais connu, je te dédie ceci. L'ultime taureau de ma vie de torero, et regarde si mon travail ne sera pas digne de toi. » Il se retourna d'un air théâtral et marcha vers le taureau, qui est resté tranquillement debout à le regarder. Il regarda attentivement le taureau, puis se tourna vers son frère José Leito. « Tue-le pour moi, José. Prends-le à ma place. Je n'aime pas sa manière de me regarder. » On finira maintenant avec un écrivain passionné de tauromachie. Il s'agit de Jean Cau, qui consacra à cette forme de spectacle de nombreux livres et articles dans lesquels il exprime son attachement envers un art qu'il estimait être l'héritage ancestral de rites et de jeux païens avec l'animal sauvage. Ses périples de feria espagnole en feria française lui inspirèrent notamment « Les oreilles et la queue » en 1961. Jean Cau est né le 8 juillet 1925 à Bram, dans l'Aude, d'un père ouvrier agricole et d'une mère femme de ménage. Il a été secrétaire de Jean-Paul Sartre de 1946 à 1957 et a écrit dans Les Temps modernes, puis journaliste à L'Express, à France Observateur, au Figaro littéraire et à Paris Match. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages, romans, essais, pamphlets et pièces de théâtre, ainsi que de plusieurs scénarios de films. Il reçoit, en 1961, le prix Goncourt pour son roman « La pitié de Dieu ». Il fut le compagnon de l'actrice Louisa Colpayne, mère de Patrick Modiano. C'est d'ailleurs Jean Cau qui préfaça le premier roman de Modiano, « Place de l'Étoile ». Il décède le 18 juin 1993 à Paris et repose au cimetière Lacomte de Carcassonne. Bilbao, c'est le Creusot ou Saint-Étienne, ville de fer et de suie, où l'on n'agite point la catastagnette, mais le marteau-pilon. Ville massive et immobile comme un taureau de 700 kilos, écrasé sur la terre basque et fumant la suie de ses gros naseaux dressés vers un ciel gris, d'où tombe une pluie fine, importée de Brest ou de Manchester. À Bilbao, on ne badine pas avec la tauromachie, et les métadors sont sévèrement remis à leur place. Ici, le taureau est roi, et non le torero. Cette ville exige que soient combattus en ses murs des monstres qui lui ressemblent. Lourds, noirs, hostiles. Ses habitants se vantent d'être ceux à qui on n'en compte pas. Et la torería andante sait que le public de la Plaza de Vista Alegre lui sera avare d'indulgence. Ici, on est en terre vaillante. On ne rêve pas. On travaille. Ici, demain, c'est demain, et non point le délicieux mañana andalou perdu dans les lointains d'un fantaisiste à venir. À l'heure fixe, les sirènes mugissent et les ouvriers descendent dans les mines. Les dockers chargent les bateaux, les cols blancs franchissent la porte des bureaux. Ici, c'est donnant-donnant. Et que ces farceurs d'Andalous n'aillent pas croire qu'ils nous rouleront si facilement dans la farine en toréant des bouvillons. À Bilbao, on aime le massif, le solide, des taureaux gros comme des usines. Puisqu'on dit que ces baladins du Sud gagnent des fortunes en tuant des taureaux, et puisque c'est leur métier, point d'indulgence, point de pitié, qu'ils en crèvent, mais qu'ils y aillent. Puisqu'ils se vantent d'avoir des coronés, qu'ils nous le prouvent. Sous le ciel de Biscaye, la fission n'a point la fine intelligence de Séville. Elle est rude. À Séville, à Ronda, au Puerto de Santa Maria, on est infiniment plus connaisseur, mais dans les limites d'une affection pénétrée, comme dirait Pascal, d'esprit de finesse. Sur les gradins de Vista Alegre régnerait plutôt l'esprit de brutalité. Nous n'aimons ni ce pays, ni cette ville, ni ce nord, dit la torería andante. Nous ne sommes pas chez nous, sommes brutos. Ils n'aiment pas les toreros, mais les taureaux. Dans les salons de l'hôtel Carton, les mines andalouses s'allongent. Ce ciel, ces cheminées, cette pluie qui n'empêche rien mais qui gâte tout, ces taureaux dont l'un se permet de peser 575 kilos, pourquoi pas une tonne, ces brutos qui n'y connaissent rien mais qui en veulent, et du solide pour leur argent. Oh, Andalousie, où es-tu? Au pied de la Riralda, à Séville, ou à trois pas de la statue de Pedro Romero à Ronda, nous frappons le sol de notre tierra. Nous sommes toreros, portés en triomphe, abreuvés d'injures ou maudits jusqu'à la troisième génération, oui, mais par nos amis et par nos frères. À Bilbao, nous sommes des étrangers. C'était la chronique littéraire de Gilles Labourois. À bientôt.